Clémentine Sélarié, bonjour. Donc vous êtes à Cannes pour présenter votre premier long métrage en tant que réalisatrice, Pierre et Jeanne.
Oui.
En fait, c'est une adaptation dont vous êtes chargée d'un quatrième roman de Guy de Maupassant, Pierre et Jean. En fait, il y a quoi, une passion pour Maupassant, parce que oui. Il y a votre pièce Une vie au Mathurin, il y a le cours que vous avez tourné en 2009, La Tombe, à partir d'une nouvelle de Guy de Maupassant. Ça, c'est quoi, c'est son univers qui vous fascine?
Oui, c'est... Alors, en ce moment, je suis en tournée de Une vie de Maupassant, je suis en plein dedans, là, je joue demain à Vissou, près de Paris. J'ai fait 140 dates de tournée, ce qui est absolument incroyable, et j'ai beaucoup de chance. Ben, si vous voulez, oui, c'est comme si on était lié par... Maupassant, il est très excessif, très extrême. C'est des sentiments... Il est très féminin, en fait. Il a mis beaucoup de lui dans Une vie, il a mis beaucoup de lui dans Pierre et Jean. Il est très... Il parle de nos âmes, quoi. Il décrit ce qu'il y a dans nous. Il est passionné, quoi. Et moi aussi. Donc, je me reconnais, je suis rassurée quand je. Je pense que je suis vraiment amoureuse de lui. Je suis amoureuse de son. De sa fougue, de son. Je sais pas, voilà. C'est difficile à décrire. Mais Et c'est pas fini en plus, j'ai envie de faire d'autres choses. Mon prochain spectacle, même mon prochain film, je me demande si... Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment... C'est un écrivain que j'aime pour toutes ces raisons.
Alors, pour parler pitch, puisque moi, à la mode, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le charme discret de la bourgeoisie qui peut voler en éclats en un instant?
Ah, c'est drôle, ça, j'avais jamais pensé à ça. Quel compliment. Alors, mais écoutez, c'est vrai que c'est drôle, il y a un truc... Ben oui, c'est le charme discret d'une jolie famille. Une jolie famille, oui, qui peut basculer. Et c'est ce que j'aime, c'est que c'est universel. Alors moi, j'ai fait une adaptation. J'ai voulu que Jean devienne Jeanne, parce que voilà, frère et sœur, pour moi, ça changeait pas. Et c'était contemporain. C'est-à-dire que c'est contemporain. C'est pas en costume d'époque. Mais il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas de téléphone ni de télévision, ni d'écran d'ordinateur. C'est intemporel. Je voulais qu'il y ait cette intemporalité un peu. Et puis...
Est-ce que le phrasé de la famille Roland aussi est un peu hors du temps? Si c'est
oui,
d'un autre monde.
Oui, absolument. Et ça, moi, je voulais ça aussi. Parce qu'il y a des gens comme ça en province. Il y a des gens qu'on voit pas forcément. Hein, parce que... Mais il y a des gens qui ont une façon d'être ou qui ont une espèce de tenue comme ça, de... Moi, je connais des gens comme ça, même près de Paris, qui ont un rythme ou une espèce de... d'éducation comme ça. Et donc, bah oui, ils sont... Comme ça, on flotte dans un endroit où... Enfin, dans une époque, si vous voulez, où on peut pas trop définir quand c'est. Mais en tout cas, c'est pas en 2020, c'est 2022. Ça, c'est sûr. Et il n'y a pas d'écran. C'est-à-dire qu'on est... voilà, c'est intemporel. Moi, j'avais... Parce qu'on ne pouvait pas faire un film d'époque. C'est trop cher. Ça, vraiment, comme on a eu... On ne pouvait pas faire un truc avec des costumes. Puis moi, j'avais pas forcément envie. Parce que pour moi, c'est très contemporain, Pierre et Jeanne. Enfin, c'est de tout temps. Il y aura toujours des secrets dans les familles, des trahisons, des mensonges, malheureusement. Et je trouve ça super fort, quoi. Je trouve ça terrible, je trouve ça horrible, et en même temps, c'est ce qui fait la puissance de... Voilà.
Il y avait eu des adaptations du roman, un téléfilm en 2004, avec Balmer et Aurore Clément. Il y avait eu le Buñuel en 51. Vous aviez, pour vous préparer à cette adaptation, été voir ce qui avait été fait?
Surtout pas, non. Non, j'ai rien vu du tout. J'ai vu récemment Pierre et Jean, une vieille version incroyable, une très vieille version noir et blanc avec il n'y a que celle-là qui est, mais vraiment ancienne, hein, qui a été faite en 50 ou... incroyable, où ils ont carrément inventé, enfin, beaucoup de choses. C'est une adaptation très très libre pour le coup. et qui n'est pas d'époque de 1900, enfin un peu, mais si, un peu, mais si, c'est un peu 1900, c'est vrai, et c'est noir et blanc, mais c'est drôle parce que c'est très très adapté, quoi. Voilà. Non, j'ai rien voulu voir parce que je voulais absolument pas être influencée. C'est comme une vie, la pièce que je joue en ce moment en tournée. Je veux pas voir de version. De toute façon, je suis déçue quand j'ai un programme. Non, je sais pas. Parce que je mets la passion, la fougue, la. Comment dire, c'est difficile de trouver des mots à tout ça, parce que pour moi c'est évident, mais je me rends compte que c'est pas évident pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'excès d'espoir aussi dans la vie, d'attente, oui, les extrêmes sentiments. Tu vois, aujourd'hui, c'est très rare qu'on dise « Ouais, c'est génial, c'est... » Les gens... aime le glauque, le sombre, éventuellement, ou le gore, comme on appelle ça, ou je sais pas quoi, le dark, comme ils disent, voilà. Mais ils ont peur de l'anxiogène, enfin, c'est n'importe quoi, je veux dire, enfin, l'anxiogène, au passé, on peut me dire, tu vois, c'est dramatique, c'est pas, le drame n'est pas anxiogène. Le drame, c'est extrêmement cinématographique, c'est. Si une histoire n'a pas de problème de drame, enfin, elle est plus lisse, quoi. Ce que j'aime chez Maupassant, c'est les montagnes russes.
Alors, donc, adaptation, écriture des dialogues également, interprétation, puisque c'est quand même aussi partie du générique, et le montage avec Clara Saunier, c'était une évidence de passer au montage ?
Oui. De toute façon, moi, j'ai. J'avais monté un documentaire que j'ai fait sur un ami qui avait la maladie de Charcot. Et oui, je voulais le monter, je savais exactement ce que j'avais dans la tête. Et là, j'ai juste voulu avoir après de moi une monteuse que Mathieu, d'ailleurs, Amalric, m'a conseillé. Enfin, il m'a conseillé d'appeler sa monteuse. Et cette même monteuse m'a conseillé Clara, qui a été géniale parce que c'était. Moi j'avais besoin de liberté totale. Moi j'ai besoin qu'on me laisse faire ce qui est un peu normal. Mais comme tu vois, comme c'est ton premier film, quelquefois on te dit, ben là ça serait peut-être mieux, comme bon, etc. Mais moi j'ai besoin qu'on me laisse, quoi, parce que j'ai la tête qui fume et j'ai besoin qu'on me laisse. Et du coup voilà, Clara, oui, a été géniale parce qu'elle a compris ce que je voulais faire, elle m'a soutenue, elle a quelquefois elle me disait oui, j'ai dit non. Mais bon, voilà. Et puis quelquefois elle me proposait des trucs vachement bien. Non. C'était génial. C'était. Mais j'ai une équipe fantastique. Hein. Vraiment, mon chef op, Vincent Le Born. Oh là là.
Alors, au niveau du casting, vous avez été faire votre marché chez Edmond, Tom Leb, Dominique Pinon, mais le film.
Ah non, pas du tout. Mais j'ai même pas pensé à Edmond, pas du tout. Non.
C'était à vous revoir au générique.
J'ai fait mon marché. Non. D'abord, il fallait un acteur, déjà pour faire le père, mon mari, pour le père Roland, c'est Philippe Huchon, qui est absolument génial, que j'adore, un acteur. Si pour ceux qui n'entendent pas, enfin, qui ne voient pas qui c'est, il joue dans tous les films, beaucoup de films de Rapontel. C'est un excellent acteur. Non, après je voulais Sergi parce que je voulais que Marosco ne soit pas polonais mais espagnol. Enfin, je voulais. Voilà. Donc j'ai demandé à Sergi, il m'a tout de suite dit oui, c'est génial. Et puis les deux jeunes acteurs, Elodie Godard et Loris Freeman, je les aime beaucoup, on travaille ensemble, on se connaît et j'avais besoin de. Voilà, et ils sont fantastiques aussi. Et puis. Après, Dominique Pinon, il m'a fait ce cadeau d'ouvrir le film. Il a un rôle.
Vous saviez qu'il avait joué avec Philippe Huchon dans la série Siècle de Maupassant ?
Non.
Je trouvais que hasard ou coïncidence, c'était quand même
pas
drôle, mal.
Oui, ouais, c'est vrai. Non, je savais pas. Et pas du tout. Et j'adore Dominique Pinon. Il est fantastique. Et c'est un acteur absolument incroyable.
En notaire.
Ah oui. Et puis, et ensuite.
Et Mathieu ? Comment est-il arrivé
alors,
là ?
Mathieu, Amalric, c'est parce qu'on cherchait une fille.
Il joue le généreux testateur par qui tout arrive finalement.
Comment ?
C'est le généreux testataire.
Ouais, absolument, le généreux testataire. Et c'est par qui tout le drame arrive. Justement, c'était important parce que c'est un petit rôle, mais grand dans l'histoire.
En effet, ouais, ouais.
Donc, il fallait trouver quelqu'un, un emblème, une... Et en fait, moi, j'avais pas osé penser à lui. Enfin, j'avais demandé à différents autres acteurs. J'ai demandé à Lambert Wilson qui joue dans La Tombe. Il pouvait pas, il n'était pas libre et tout ça. Et c'était pas possible. J'ai demandé à Lambert. Mais c'est Mathieu Rubin, mon producteur, qui a dit mais pourquoi pas Mathieu Amalric. Et il se trouve que mon premier assistant, Dylan, qui était un premier assistant génial, que je voudrais absolument avoir dans mon prochain film, m'a dit oui, bien sûr, je l'appelle, il le connaît, c'était l'assistant de Mathieu Amalric, okay. Mon assistant. Donc il a appelé et ça a été incroyable. Et il a dit oui, et je l'ai vu débarquer sur mon plateau, Mathieu Amalric. Enfin, j'étais très impressionné. J'étais très impressionné, vraiment.
Mais il a un rôle impressionnant aussi, hein,
ouais,
c'est vrai. Sa seule présence.
C'est génial. Ouais, c'est génial qu'ils sont dans le film.
Alors, vous avez travaillé en famille quand même, puisque la musique est signée Gustav Reicher, donc votre fils.
Oui, mais moi, je ne travaille pas en famille. Hein. Je travaille avec la famille artistique. Pardon. Mm-hmm. Je ne veux pas mettre en avant le fait que ce soit mon fils, parce que ça réduit la chose, je me permets. Hein.
Ouais.
C'est et d'ailleurs, je n'ai jamais dit que c'était mon fils. Je ne le dis pas, parce que c'est surtout Gustav Reichert. Il fait des musiques absolument magnifiques. C'est lui qui a signé le film, la musique du film. Je lui ai demandé, et c'est parce que j'aime sa musique, c'est ça que je veux dire. C'est lui qui a fait la musique parce que j'aime. Il n'y avait pas mieux pour moi que lui comme compositeur musical. Mais c'était quoi votre question, pardon, hein,
c'était les personnes qui vous entouraient. Je veux dire, bon, il y avait Gustave, j'allais vous parler de Balthazar aussi, puisque
oui.
dans le générique de fin, bon, oui. vous avez quand même un remerciement pour votre cadreur,
oui.
qui, par le plus pur hasard,
et
voilà,
oui. Ben oui, mais parce que
et qui finalement vous a donné un petit peu le culture derrière.
C'est surtout alors, Balthazar, c'est d'abord un jeune réalisateur de talent. Qui est en train d'écrire son deuxième long métrage. Et il est belge aussi, d'ailleurs son père est belge, il est moitié belge. Gustave et Balthazar sont moitié belges. Et c'est surtout, il a surtout du talent, c'est comme Gustave. Et c'est comme mon fils aîné. Mes fils sont des partenaires artistiques maintenant. Mmh. C'est-à-dire que c'est plus mes fils. Je veux dire par là que quand on travaille ensemble, il n'y a pas de rapport mère-fils, il y a de rapport de super exigence, de surexigence d'ailleurs, parce qu'on est. De la même. Vous voyez, justement, on va plus loin dans Mère, que je vous enverrai avec plaisir. Dans Mère, il me demande de faire des trucs qu'on m'a jamais demandé de faire.
Donc Mère, c'est le premier long métrage en tant que réalisateur de Balthazar,
ouais.
avec vous-même,
ouais, et
Elodie Godard, voilà. qui est dans votre film.
Absolument, parce qu'on est comme un collectif maintenant.
Et Serge Rabioukin.
Comment?
Et Serge Rabioukin
Rabioukin, absolument, qui joue dans Mère, qui jouait dans En mille morceaux, le film
ça,
pour lequel
2018.
Elle est
voilà.
18, ouais. qui était aussi un film indépendant de Véronique Mériadec et qui était aussi un film comme celui de Sophie Guillemin. Je ne sais pas si vous connaissez ce film Sans toi, Sophie Guillemin avec Thierry Godard, qui est aussi un film indépendant fait avec très très peu d'argent. Il faut le voir, ils sont géniaux tous les deux. Ils ont fait ça comme ça. Enfin, c'est voilà. Donc voilà.
Alors, on dit que la pandémie a causé pas mal de dégâts, mais d'un autre côté, il y a eu de bons côtés, justement,
oui.
puisque vous êtes retrouvés, vous avez déplacé l'action
oui.
du Havre à Étretat. C'est génial au niveau
et
de la photo.
On avait un studio pour nous.
C'est fou.
Personne à Étretat, c'était dingue. Oui, j'ai déplacé parce que, pour des raisons bien sûr financières, économiques, mais surtout parce que j'avais envie que ce soit comme dans une bulle, comme ça, que ce soit hors de la civilisation. Et de toute façon, c'était pas très grave que ce soit. Parce que c'est vraiment un huis clos, quoi. Enfin, c'est vraiment on est à Étretat, on voit les paysages, etc. Mais c'est quand même un truc dans les sentiments d'une famille, quoi, de tout ce qui se passe quand on ment. Et les effets catastrophiques du mensonge. Et c'était. Alors, le maire nous a accueillis, André, c'est mon ami. Alors, le maire, c'est Estelle qui nous a loué sa maison, la maison des Rolands. Oui, non, mais c'était génial. Moi, quand je pense à ça, c'était un moment magique. Tous les matins, quand j'allais tourner, je me disais, mais...
Quelle chance.
Je n'osais pas y croire, en fait. Je me disais, mais c'est... En plus, on a eu tous le Covid. Le film s'est arrêté pendant une semaine, presque 10 jours. Donc, ça a été terrible, parce que... Ben parce que moi j'avais peur qu'on, enfin, que ça s'arrête, quoi. Et Mathieu est resté, on est resté. Non, non, il a été fantastique jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Alors le film parle de passion, de poésie, de probité, d'honnêteté, d'élégance. Finalement des valeurs qu'il faudrait remettre au goût du jour, non?
Oui. Ben oui, oui, oui. De toute façon, oui, et de d'honnêteté, et de mensonges, de... cacheterie bourgeoise. De... Oui, ça c'est. Ce que je trouve beau, moi, c'est la solitude. Le mensonge, ça apporte la solitude. C'est-à-dire que si. C'est atroce de découvrir que quelqu'un vous a menti, quelqu'un que vous aimez profondément. C'est atroce. Et ça, c'est le grand truc de Maupassant. C'est, de toute façon, c'est un ressort dramatique absolument génial de découvrir que. Mais oui, oui, il y a les valeurs. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a des valeurs dans ce qu'il écrit qui sont... oui, qui sont... Mais qui sont là, moi, je pense. Moi, je suis un peu... je crois.
Optimiste de nature.
Oh oui, désespérément optimiste.
Clémentine, un grand merci. Donc, merci, on rappelle Pierre et Jeanne, qu'on devait voir incessamment sous peu, oui, sur tous les écrans.
On vous préviendra quand il sortira.
Merci.
Merci beaucoup, merci.